les rendez-vous de l'information.
Jean-Joseph Perron.
Chers auditeurs, je reçois à nouveau, donc pour un petit cycle d'émissions sur le pastoralisme, j'ai le grand plaisir de recevoir Bruno Bèche, qui nous avait exposé beaucoup, beaucoup de choses la semaine dernière. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Bruno pour qu'il nous rappelle ce dont il avait parlé.
Oui, rapidement quand même.
Donc, vas-y, rapidement, parce que le temps nous est limité.
Alors, j'ai très rapidement expliqué dans quel cadre j'ai conçu mon livre, L'élève berger des Pyrénées du XVIe siècle à nos jours, une guerre de savoir, qui vient de paraître aux éditions du Pas d'Oiseau.
Voilà.
J'ai rapidement. Oui, vas-y.
Alors, il s'appelle Éleveur berger des Pyrénées du XVe siècle à nos jours. Ce qui est très important, le sous-titre « Une guerre des savoirs ». C'est un ouvrage de Bruno Bèche-Comminges, bien sûr, et qui est édité aux éditions Le Pas d'Oiseau. Il vient d'être édité il y a quelque temps, à peine.
Oui.
Il n'y a même pas un mois.
Pas même, non.
Voilà. Alors,
oui, donc, j'ai rapidement expliqué dans la première émission la façon dont j'ai été amené à m'intéresser au pastoralisme comme ça n'avait jamais été fait auparavant, de l'intérieur, à partir du savoir des gens. Et comment ce sont les gens eux-mêmes, les gens que j'ai interviewés, notamment les vieux, les plus anciens, certains nés fin 19e, qui m'ont orienté vers cette voie en me donnant les clés qui m'ont permis de comprendre des textes d'archives. Je vais d'ailleurs t'en donner un exemple dans cette émission, si tu veux. Ils m'ont donné les clés qui m'ont permis de comprendre ce qui n'avait jamais été vu dans les textes d'archives. Et je l'ai toujours écrit. Il y a des choses que j'ai écrites qui, dans le domaine du savoir, sont des révolutions coperniciennes. Et j'ai toujours écrit, et j'ai toujours dit, Copernic, c'est pas moi. Pas absolument pas. Moi, j'étais bête comme chou, je comprenais rien. C'est les éleveurs qui, eux, m'ont lancé sur les pistes et m'ont fourni les clés pour comprendre de l'intérieur ce qui n'avait jamais été analysé comme ça.
Alors, comme tu l'as dit la dernière fois, ton premier contact, ça a été Adrienne Champard, ouais. Voilà, qui était à la Soumaire. Donc, c'est ton premier contact, mais c'est Adrienne qui t'a fait connaître Milou, celui oui. qu'on appelait Milou de Baratch,
oui.
exactement,
mais
à la Soumaire.
C'était le père d'Armand, qui était maire de Sainte-Dagnous, que tu as bien connu.
Bien sûr.
Oui. Un grand ami, remarquable Armand. Toute la famille, d'ailleurs.
Très sympathique, très dévoué.
Ça, c'était son fils qui a pris le relais. Hein, c'est sans doute un des derniers héritiers de ce savoir. Il est remarquable, Jean-Pierre.
J'en parle
dans mon livre parce que j'ai eu avec lui, ça remonte plus de 50 ans en arrière, hein, ce que je raconte. Quand j'ai commencé à être à la Soumaire, il était tout petit. Et je le dis parce que c'est essentiel, ça. Et on s'est tout de suite entendu, c'est-à-dire que j'avais avec lui, j'avais 6 ou 7 ans, le même rapport qu'avec un adulte, et il a pris part, je vais dire, à mon dépucelage, on pourrait presque dire, hein, il fait partie de ceux qui m'ont décrétinisé, qui m'ont fait pénétrer vraiment dans ce qu'était le pastoralisme, parce que il avait très bien compris ce qui m'intéressait, si tu veux. Lui-même était en phase d'acquisition avec son père, son oncle, les gens qui l'entouraient, qui étaient remarquables. Et il me faisait profiter de ce savoir. Il m'a associé à son acquisition du savoir, Jean-Pierre. C'est très impressionnant, ça. Et alors, Milou, donc.
Alors, oui, alors c'est Adrienne qui t'a fait connaître.
Alors, Milou, je lui dois.
Voilà.
Donc, Milou, c'était le père d'Armand. Donc,
oui, qui avait 20 ans de plus qu'Adrienne, je pense.
Oui, à l'époque. Il était né en 1880 et quelques, je ne sais plus combien. Il avait commencé à montagner, comme tous d'ailleurs, à l'âge de 12-13 ans.
L'âge de ma grand-mère, d'ailleurs.
Oui, à l'âge de 12-13 ans.
Oui.
Et on l'envoyait, déjà petit, hein, le matin, on l'envoyait, depuis la cabane, les bêtes dormaient sur la crête, en haut, et il y avait côte à côte, sur la crête, les bêtes des trois montagnes de Sainte-Dagnous. Casabed, les Urs, Tariol, et les bêtes de Bethmal de l'autre côté. Comme il me disait, Milou, Kedroumion a ragnaragn. Ragnaragn, ça veut dire côte à côte.
Oui, oui.
Et alors, il fallait être.
Oui. Tu vois, je t'en prie. Non, mais je ne sais pas.
Et alors, il me racontait qu'en fait, il fallait être très tôt là-haut, avant que les brebis se réveillent. Si elles se réveillaient, elles se mélangeaient. Elle partait n'importe où. C'était le bordel complet pour trier. Je l'ai vécu, ça. Quand ça arrive, c'est infernal. Tu passes ton temps à courir derrière des brebis pour les trier. Alors, pour éviter ça, il fallait qu'ils soient en haut, en crête, avant que le soleil sorte. Dès que le soleil arrive, les brebis se dispersent. Pour lancer les brebis du côté où elles devaient aller. donc celle de Saint-Onac sur un quartier de Saint-Onac, de Tariol, idem, de Les Urses, idem, et les Bains-de-Mallet, les leurs chez eux. Et il a eu pour me raconter ça, donc petit, il faisait ça à 12-13 ans, il me racontait comment il avait peur en montant la nuit. Dans le noir, il montait, hein, à 12-13 ans. Hein. C'est que vraiment, les gens étaient nourris de ce savoir comme tu es nourri de ta langue. Tu apprends à parler français sans t'en rendre compte, parce que tu es baigné dedans. Mais ce savoir, il leur était consubstantiel, exactement pareil. Et à 12-13 ans, il était capable. Il est devenu à 20 ans le plus jeune majorat, chef de cabane, sur Cadavre. Il n'y en a jamais eu d'aussi jeune. Et donc, il a eu cette formule que je n'ai pas compris dans un premier temps. Parce que c'était le contraire de tout ce que je pouvais penser. Et c'est à partir de ça que j'ai été amené à être aiguillé de façon correcte. J'étais bête, j'étais inculte.
Tu es arrivé avec des idées préconçues.
Mais comme tout le monde.
Oui, tout à fait.
Les bergers gardent les brebis en montagne. Alors, il n'y a jamais eu de berger dans les Pyrénées. Il n'y a eu que des éleveurs bergers. Les bergers n'étaient que dans les transhumances extérieures, des bergers salariés, derrière le cul des bêtes toute l'année, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et qui n'est passé que 2 mois en montagne. Par contre, il y avait des éleveurs bergers, ce qui était bilou, des gens qui gardaient les bêtes sur leur propre territoire. Et leur montagne n'était pas étrangère. Elle faisait partie de leur être au même, au même niveau que les prés qu'ils avaient chez eux. Et donc Milou a eu cette formule extraordinaire à propos de cette montée très tôt. Il fallait garder... Je marque un temps de pause.
Vas-y, mais justement...
Il fallait garder la montagne que les troupeaux ne se mélangent pas. Ma première réaction, c'était, qu'est-ce qui me chabraque ? On garde les troupeaux. Absolument pas. On gardait la montagne. Et alors, tout ce que j'ai vu ensuite, les archives, les chartes m'ont montré en fait que c'était ça. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai enregistré. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il fallait garder la montagne. Ils se mettaient sur des points précis. Alors, ils lançaient les bêtes selon le
moment. On gardait la montagne, mais on ne gardait pas les animaux.
Tu vois là, selon le moment, tu lançais les bêtes sur tel ou tel secteur. Et ensuite, tu surveillais la montagne, qu'elle ne passe pas là où il ne fallait pas. Tu n'étais pas derrière le cul des brebis. Tu te mettais sur un point un petit peu élevé où tu voyais ce qui se passait. Si les bêtes filaient là où il ne fallait pas, je l'explique en détail ça dans une estive, j'ai pu expliquer ça sur une estive sur 5 siècles, le reconstituer sur 500 ans. Donc tu te mettais sur un point où tu voyais ce qui se passait, et si les bêtes, elles ont toujours tendance à se mélanger, et on le laissait faire jusqu'à un certain niveau même, tu vois, mais si ça n'allait pas, mais tu allais où tu envoyais le chien pour les renvoyer du bon côté. Et tu gardais la montagne. Tu surveillais que... on n'est pas la situation actuelle. Hein. Tu avais des milliers de bêtes en petits troupeaux répartis partout. Donc il fallait surveiller que ces petits troupeaux restent dans le coin qui leur était imparti. Donc tu surveillais la montagne.
Et c'est ce que tu as dit. Surveiller n'est pas la même chose que garder.
Voilà, c'est la montagne, c'est pas une cour de prison. Oui. C'est une cour de récréation. Oui. Donc on surveille les élèves, on les garde pas.
D'accord.
On garde les prisonniers, et c'est ce qui se passe.
Oui, mais de toute façon, tu l'expliques très bien dans ton livre, sûrement mieux que je peux le faire moi-même. C'est que les troupeaux avaient leur propre vie. Ils s'orientaient eux-mêmes en fonction des habitudes, de l'herbe, en fonction de tout un tas de paramètres.
Quand j'écrivais ça à l'époque, l'INRA, je vais te parler quand même de ma collaboration avec l'INRA. Ça choquait un petit peu. Des travaux scientifiques ont été faits aujourd'hui qui le prouvent, ça. Les bêtes ont une connaissance. Les bêtes apprennent la montagne comme les hommes. Et je vais même plus loin, c'est les bêtes qui apprennent de la montagne aux hommes. Par leur comportement, les bêtes, si tu veux, se choisissent les endroits, les bons, les pas bons, et des endroits où tu les fais manger, les obligeants parce qu'il faut que ce soit mangé, mais si elles le pouvaient, elles n'y seraient pas. Et les bêtes transmettent, ça a été analysé, notamment, je ne sais plus son nom maintenant, mais ça a été très bien analysé pour les vaches dans les Alpes. Ça. Les mères transmettent, j'ai des photos extraordinaires où on le voit, il y en a dans le livre. Les mères transmettent à leurs petits, alors que ce soit les veaux, les veaux, les agneaux, les agnelles, hein, transmettent à leurs petits le comportement adapté à un milieu et le fait qu'à tel moment, il faut que tu manges là. à tel moment, tu vas mousquer, on dit à patois, ça veut dire se mettre à l'abri du soleil, et des mouches, à tel endroit. Et alors, les petits, j'ai des photos extraordinaires, où tu as les petits qui sont derrière les bêtes, et j'ai pu observer, parce que j'ai passé 20 ans sur cette montagne, comment les petits, les agnels, devenus brebis, reprenaient exactement les circuits et les points de mousquet indiqués par leur mère, le transmettaient, bien sûr, à leur tour, à leur gosse, qui, à leur tour, le répétaient. Donc, il y a une culture du milieu. Tous les éleveurs qui m'entendent vont dire « Mais c'est évident ce que tu dis, on le sait. » Mais oui, mais les gens ne le savent pas.
Les gens ne le savent pas. Et certains scientifiques n'ont plus. Peut-être qu'ils ont jeté.
Il s'est écrit des choses qui sont très étonnantes. Je ne suis pas là pour désinguer, j'aurais fait
pareil.
Pareil, encore une fois, je répète.
Oui.
C'est si je n'avais pas eu ces gens qui m'ont déniaisé, vraiment.
Voilà.
Vraiment.
Et ce que tu rapportes dans ton livre, c'est qu'il ne fallait surtout pas déranger ou bousculer les habitudes des animaux.
Ah mais non,
parce
bien
que
sûr.
Ça n'allait pas, quoi, quand...
Adrien, il avait cette phrase extraordinaire que d'autres ont eue, Michel a dit telle qu'Adrien la disait. Et je la répète plusieurs fois comme un mantra dans le livre, parce que c'est la clé. Cette phrase extraordinaire, en semi-liberté, c'est bien, semi-liberté, tu vois, oui. C'est là qu'elles sont bien et c'est là qu'elles profitent. Semi-liberté, parce que ce n'est pas des gisards.
Oui.
Elles ne sont pas livrées à leur bon vouloir. Il y a une répartition des pâturages en fonction des moments de la saison. Donc, tu leur donnes un biais. Hein, en français, on dit un biais. Je plus la yobirado, on dit en patois. Oui. Birade, virer, retourner. Tu leur donnes un biais, tu leur donnes un mouvement. Mais ensuite, elles sont en semi-liberté. Et c'est là qu'elles sont bien et c'est là qu'elles profitent. Et effectivement. Si tu les forces à faire... Il y a des exemples très concrets, hein, très très concrets, dans des contextes très particuliers, où les bêtes sont contraintes. Je ne dis pas dans quel cadre ça se passe actuellement. Il y a des contraintes imposées aux bêtes qu'elles n'avaient pas avant. Tous les éleveurs te disent, elles descendent moins bien que ce qu'elles étaient avant.
Ah, là c'est un problème.
Mais c'est un problème, oui. Elles descendent moins bien que ce qu'elles étaient avant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce comportement... Encore une fois, c'était les héritières d'un savoir de la même façon que tu es héritier de la langue.
Oui. Hein,
la langue, tu l'apprends sans le savoir.
Oui.
Tu n'as pas appris à parler français.
Non.
Ben, les bêtes, elles étaient dans ce... Alors, il y avait la transmission. Mais cette transmission, elle était aussi à la maison ensuite. Et les choix qu'elles faisaient dans les prés, quand tu les faisais pâturer dans les prés, tout ça relevait de la même culture, en fait. Et les éleveurs observaient. Moi, j'ai enregistré des trucs et j'ai vu des choses qui m'ont appris à voir. Hein. Je vais te donner un exemple extraordinaire que je ne savais pas voir. Tu ne sais pas le voir. Tu ne peux pas le voir si tu n'es pas dans cette culture. Et moi, j'ai eu la chance, je leur en suis reconnaissant. Je me suis régalé toute ma vie parce qu'ils m'ont donné les clés pour rentrer dans ça et pour le voir vraiment de l'intérieur. Je vais te donner un exemple extraordinaire. Une gamine que tu as connue. 4-5 ans, son père avait des brebis, il est mort il n'y a pas longtemps, et alors, quand les brebis avaient les agneaux à la grange, on les met dans un parc à part, hein, pour qu'elles ne se mélangent pas avec les autres, qu'elles ne soient pas gênées. Et il arrivait que ces agneaux s'échappent du parc. Et j'ai vu cette gamine, 4-5 ans, hein, c'était sidérant. Je suis encore incapable de le faire ça aujourd'hui, je n'ai jamais été capable. 4-5 ans, l'agneau dehors, la gamine prendre l'agneau, elle ne savait pas d'où il venait, elle ne connaissait pas le parc dans lequel il était, sans se tromper, tous les agneaux se ressemblent, hein.
Oui, tout à fait.
Bon,
oui.
Ben non, qu'est-ce qu'elle avait vu de ce jour, sérieusement, sans se tromper, prendre l'agneau et le porter à la mer, il y en avait des dizaines, hein. Elle ne le portait pas celle qu'il ne fallait pas. Tu avais donc ce savoir, si tu veux. Un savoir, c'était comme parler une langue que tu n'as pas appris, si tu veux. Elle aurait été incapable de m'expliquer. Par la suite, elle l'a été. Mais petite, elle était incapable de te dire ce qu'elle faisait. C'était vraiment dans la nature. La nature au sens culturel, du mot, hein, bien sûr.
La nature. Ouais. Donc, c'est toute une philosophie. Et je vais te citer. Alors, je ne sais pas si toi-même tu cites un éleveur ou un berger, je ne sais pas. Mais tu as écrit. Cette philosophie. Enfin, tu as caractérisé cette philosophie de l'estive. Observe, tais-toi, Fais confiance aux bêtes et n'agis que si nécessaire.
Ça, c'est moi qui l'ai écrit.
C'est toi qui l'as écrit. Écrit.
Mais c'est exactement le résumé de tout ce qu'on m'a appris.
Voilà, c'est pour ça que je le
fais pas le malin. Je ne fais pas le malin. Ce que j'aurais eu tendance à faire, et qu'on m'a appris qu'il ne fallait pas faire. On m'a appris.
Rester modeste toujours.
À se dire, c'est le reste qui a raison. Voilà. Ça sera de toute façon plus fort que moi. Donc il faut que je rentre, et c'est ce que je demandais, ce qu'il faisait. Il faut que je rentre dans cette réalité. Que je ne cherche pas à la dompter. Que je ne cherche pas à l'écraser, tout ce qu'on a fait avec la chimie, que je rentre dans cette réalité, essayer de comprendre de l'intérieur ses propres lois, son propre fonctionnement. Et mon intelligence du milieu, mon intelligence des bêtes, et ce qui fait qu'elles vont profiter, c'est que je vais les intégrer dans ce que ce milieu permet.
C'est toute une science.
Ah, mais c'est, quand je dis que ça relève d'une analyse épistémologique, comme la génétique, comme c'est exactement ça. C'est vraiment une science. D'ailleurs, j'emploie le mot science concrète en son propos. C'est une science concrète.
Tout à fait, oui.
Ouais.
Il n'y a pas d'intellectualisme, non. Ça part du pratique.
Ah non,
ça part de la pratique.
C'est une science née de l'observation minutieuse, détaillée du comportement des bêtes. Et c'est facile. Je vais te donner un exemple extraordinaire. C'est un des. Ça aussi, ça fait partie au tout début de mes enquêtes. Des choses qui m'ont amené à ne plus être idiot, quoi. Je l'étais vraiment, mais comme tout le monde. J'aurais continué à l'être, quoi.
Oui.
Une discussion entre deux éleveurs, qui se connaissaient bien, deux amis. Et l'un dit à l'autre : mais ce pré-là que tu as, il est vachement bien, quand même. Quand il passe, les vaches. Au niveau du lait, elle s'en a bien donné. Et il a cette remarque qui montre que ce savoir est tout sauf anecdotique, tout sauf intuitif. Il est quantifiable. C'est une remarque qui est mathématique. Il a cette phrase extraordinaire, il dit « Détrompe-toi, passez dans ce pré, elles te font tout de suite une bouteille de lait de moins, c'est-à-dire un litre. » Bon, c'est remarquable.
Oui, tout à fait,
le jugement de valeur ne portait pas sur un sentiment, sur une impression, sur une tradition, mot que je déteste. Il portait sur un savoir absolument construit, rationnel et quantifiable. Un litre de lait en moins, c'est un litre de lait en moins. 5 kilos de moins pour un agneau, c'est 5 kilos de moins. Voilà. Et ça, c'est pas mon pif. C'est pas je crois, c'est pas je pense, c'est pas j'imagine. C'est on ne peut plus concret. Et ça fait partie des éléments aussi, cette discussion dès le début, fait partie des éléments qui m'ont amené à comprendre que c'est ça qu'il fallait que je creuse. Cette rationalité d'un savoir considéré. Je vais te donner un exemple, je t'ai donné l'exemple du ministère de l'Agriculture qui parle de la crétinisation des sols dans les années 1960. Les gens sont des crétins.
C'est un peu vache comme définition.
tout à fait. C'est écrit noir sur blanc.
Oui,
c'est
oui.
La position officielle. Dans les années 1880.
Je l'ai lu, oui, dans ton ouvrage. Dans
les années 1880, un ancien conservateur des forêts a cette phrase terrible pour parler des pastoraux pyrénéens. Avec tout le poids de racisme que ça peut avoir, il parle d'une exploitation kabyle.
Ah, en effet, oui.
C'est joli, hein. C'est-à-dire, oui. Chose kabyle, ça.
C'est très connoté, même.
Ouais, c'est pas gentil. C'est des beaux jours, c'est des cons, quoi. Voilà.
Oui, oui.
Clairement, c'est ça. Alors, le discours qu'il tient après est sidérant, quand même. Bon. Et tout ça, c'est quand même. C'est les gens, finalement, qui m'ont, moi, permis de découvrir cette science concrète du milieu. Les kabyles, les crétins, enfin voilà, c'était quand même très impressionnant. C'est impressionnant cette rupture.
Mais je t'avais rencontré une fois dans la rue et tu m'as justement parlé de ça. Tu préparais une conférence sur les kabyles en disant que c'était à peu près la même civilisation.
Mais c'est, je en parle d'ailleurs. Il y a eu d'ailleurs.
Non, mais on s'était rencontrés là.
Oui, je m'en souviens pas, tu vois.
Voilà.
Mais j'en parle d'ailleurs. Dans mon bouquin, je fais des parallèles avec la situation en Algérie, la situation à Madagascar. La situation au Vietnam, rapide. Hein.
Les montagnes du monde.
Oui, pas les montagnes du monde, les pays colonisés du monde.
Ah oui, d'accord.
Et je dis quelque chose ce qui était ma thèse, le savoir des magies de Casabed.
Excellent livre. Okay. Dommage, il est épuisé, mais c'est très beau livre.
Comme je te dis, moi aussi. Mais, donc, j'avais écrit que ça me paraissait abusif à propos du rejet de ce savoir, si tu veux, de parler de colonisation. Et dans le bouquin actuel, je dis non, c'est vraiment le cas. Parce que je fais la comparaison. Il y a eu une colonisation des Pyrénées, du savoir pyrénéen, par le savoir des élites, pas tous. Je montre comment il y a plein d'élites qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Mais elles ont perdu la guerre. Je montre comment, en fait, le même raisonnement, exploitation kabyle, décret, etc., etc., le même raisonnement a été mis en place en Algérie, a été mis en place à Madagascar, a été mis en place au Vietnam. Et alors, il y a un truc absolument extraordinaire en Algérie. C'est l'action de l'administration forestière en Algérie est encore plus terrible qu'elle l'a été ici. Il fait ce qu'il voulait, c'est horrible. Au point que Jules Ferry, un chantre du colonialisme pourtant, Jules Ferry, sénateur alors, a monté une commission d'autres sénateurs pour aller voir concrètement ce qu'il en était en Algérie. Il est revenu avec un rapport qui est saignant. Saignant. Où il dit qu'effectivement, on a fait preuve d'un mépris total à l'égard du savoir des gens. On les a empêchés même, on les fait crever de faim, de fait, en leur empêchant de faire ce qui leur permettait de vivre. C'est terrible, ce rapport. Et dans ce rapport, il cite des gens qu'il a interviewés. Des Arabes qu'il a interviewés, en particulier des Kabyles. C'était dans la Kabylie qu'il y avait le problème pastoral le plus important et le plus conflictuel. Donc, ce n'est pas lui qui les a interviewés, bien sûr. Il y a des gens qui parlent arabe et qui parlent kabyle. Et alors, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans ces. Où j'avais des pétitions de villages kabyles qui sont traduites. Et il y a des phrases, c'est exactement les mêmes, au mot près, que celles dans des pétitions françaises à propos de l'administration forestière au 19e, ou celles que me disaient les gens que j'enregistrais sur le soir. C'est exactement. Au mot près, les mêmes phrases. C'est que tu as vraiment une homogénéité culturelle du pastoralisme. Alors, je le montre, mais il y a une homogénéité culturelle dans l'autre camp, de mépris de ce pastoralisme. C'est très impressionnant. Et ce qui m'a amené à dire, ben oui, je me trompais en disant qu'en France, on ne peut pas parler de... Ça revient au même, en fait. C'est pas du colonialisme, ça, mais ça revient au même. L'attitude est la même. Le comportement est le même. Et les gens que j'interrogeais ont vécu cela aussi douloureusement. Ils me le disaient. Ils me le disaient. C'est pour ça qu'ils ont été enchantés que je venais les interroger et qu'ils m'ont ouvert toutes les portes. Hein. Ils ont vécu ça aussi douloureusement que les Kabyles avaient pu le vivre.
Voilà. Et ce que tu disais tout à l'heure, que tu n'aimais pas le mot tradition. Oui. Alors pourquoi tu n'aimes pas le mot tradition ?
Il n'y a pas de tradition, moi, la tradition. Ça, c'est... L'usage du mot tradition est quand même un peu puant. En soi, je rien compte, mais tradere, c'est ce qu'on porte avec soi. Bon, c'est tout, voilà.
Oh, donc, oui.
On peut dire c'est une culture, c'est une transmission. Tu as utilisé le mot transmission, il me paraît excellent. Excellent.
Oui. Oui. Donc, en fait, c'est un phénomène de passeur.
Mais bien sûr, voilà.
C'est un passeur de savoir et voilà. Un passeur de vieux écoutumes. Bruno Bechkomen, on n'a pas terminé les sujets. Alors, est-ce que tu es d'accord pour faire une troisième émission la semaine prochaine ? C'est toi qui décides.
Écoute, si je ne te casse pas les pieds...
Mais loin de là. Nous nous connaissons. On se connaît aussi, depuis tellement longtemps. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
De parler de quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé, qui est essentiel, l'histoire des races bovines et ovines pyrénéennes.
Et donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu.
Même lieu.
À 20h.
Mais il n'y aura toujours rien à boire.